Nous allons lire un premier passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat, et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Une deuxième lecture, nous la trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. Et là encore, nous lirons un paragraphe, les 2 premiers versets. Et puis à partir du verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol. Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Et ainsi, tu respecteras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas se charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et un dernier passage dans le Nouveau Testament. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Entretien de Jésus avec un enseignant de la loi. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner une raison, reprit. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste, et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?»« C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. » « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Ce matin, nous voudrions réfléchir ensemble sur le prochain. Le mot « prochain », suivant qu'il est employé dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et nous avons lu des passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ce mot n'a pas toujours le même sens. Il ne doit pas d'abord être confondu avec le mot « frère », bien qu'il lui corresponde souvent. Selon le sens originel, étymologiquement, ce mot de « prochain » exprime l'idée de s'associer avec quelqu'un, d'entrer dans sa compagnie. À l'inverse du frère auquel on est lié par une relation naturelle, le prochain n'appartient pas à la maison paternelle. Si mon frère est un autre moi-même, mon prochain est un autre que moi. Un autre qui, pour moi, peut demeurer autrui ou bien peut devenir aussi frère. Et nous commençons à nous apercevoir que suivant le temps, les circonstances, ce mot de prochain a un sens qui peut légèrement aller d'un côté ou de l'autre. Soit du côté du rapprochement avec le frère, soit du côté de la permanence, de la différenciation entre le frère et celui qui n'est pas de la même famille. Un lien peut se créer entre deux êtres pour des raisons diverses, de façon passagère, de façon durable et personnelle, à cause de l'amitié, de l'amour ou de la camaraderie. Plusieurs possibilités. Le Deutéronome et la loi de sainteté, en fait, confondent parfois les deux termes, autrui et frère. Et je pense que vous avez déjà remarqué, dans la deuxième lecture que nous avons faite, celle que nous trouvons dans le livre du Lévitique au chapitre 19, que dans cette énumération de lois dans les relations humaines, il y avait l'emploi des termes prochains, frères, et que parfois on passait de l'un à l'autre dans le même élan de la phrase et dans la même description de l'action. Autrui et le frère peuvent être la même personne. C'est bien sûr d'abord les Israélites, les membres du peuple de Dieu. Mais lorsque nous entrons dans cette perspective, nous pourrions nous dire que c'est le glissement du prochain vers le frère qui fait retrécir un peu le propos et qui fait que finalement les vrais prochains ne sont que les frères. Et c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est au contraire un élargissement. Ce n'est pas un retrécissement de l'amour du prochain en amour des seuls frères. Au contraire, ces textes veulent étendre le commandement de l'amour en assimilant à l'israélite l'étranger résident. Et je crois que cette mention explicite et bien renouvelée au fil des textes est parlante et qu'elle éclaire de façon tout à fait évidente que c'est vers cette considération de celui qui est là avec moi, près de moi, le proche, le prochain, que doit se faire le glissement du sens du mot de prochain. C'est celui, en fait, qui est proche de moi, et qu'il s'agisse du frère ou de celui qui est venu d'ailleurs, mais qui est entré dans la communion du peuple et qui réside ici, avec moi, c'est cela qui est fondamental, qui est essentiel. Assimilation du membre du peuple avec l'étranger qui réside au cœur du peuple. C'est dans cette ligne que les textes de l'Ancien Testament parlent du prochain. Les premiers textes où nous voyons mentionner le prochain, ce sont les deux derniers commandements d'Exode 20, vous l'avez remarqué. Tu n'apporteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. La suite des lois condamne aussi les injustices, le meurtre du prochain, bien entendu. Et lorsque nous passons des textes de loi avec leur extension dans la vie du peuple, pour aller vers les textes de la sagesse, il y a même la condamnation du mépris du prochain qui se trouve dans le livre des Proverbes. Mépriser son prochain, c'est commettre un péché. Finalement, le prochain qu'il faut aimer, c'est autrui, qu'il soit ou non un frère. Dès que deux êtres humains se rencontrent, ils sont l'un pour l'autre le prochain, indépendamment de leur relation de parenté ou de ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Voilà quelques éléments sur ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous allons venir plus précisément à ce texte bien connu de la parabole du bon samaritain que nous avons lu dans Luc au chapitre 10. Un scribe s'approche de Jésus, comme malheureusement beaucoup de circonstances semblables. Ces responsables de la loi sont bien marqués non seulement par leur connaissance de la loi, mais aussi par leurs options très communautaristes, si l'on peut dire, de leur propre caste. Et dans les mentions des évangiles, la plupart du temps, ces gens, lorsqu'ils s'approchent de Jésus et qu'ils lui posent une question, le font pour essayer de trouver dans les paroles mêmes de Jésus de quoi le piéger. Et celui-là ne fait pas exception à cette malheureuse règle. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» On a posé cette question à Jésus à plusieurs reprises. Et comme souvent, Jésus répond à la question par une autre question, pour faire réfléchir celui qui s'adresse à lui et pour l'amener à évaluer le sens de ce qu'il vient de demander, et même peut-être pour qu'il trouve lui-même la réponse à sa question à partir de la question de Jésus. Et Jésus répond à cet enseignant de la loi, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? » Double question. Connaissance et compréhension. Es-tu un bon étudiant de la loi, celui qui s'applique non seulement à la connaître, à savoir ce qu'elle dit, mais à la comprendre, à en saisir le sens? Il y a toujours eu, après, beaucoup de débats pour expliciter le sens, pour voir la compréhension, mais en attendant, toi, que dis-tu? Que contient la loi? Qu'est-ce qu'elle dit? Et comment la comprends-tu? Alors cet homme va rapidement à l'essentiel. Il aurait pu réciter le décalogue, il aurait pu développer un certain nombre de préceptes. Il va à l'essentiel et il l'énonce de façon claire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas dans le texte tel qu'il se présente comme nous l'avons lu, l'association immédiate des deux lois. Il y a bien sûr le précepte qui déclare qu'il faut aimer Dieu, et puis il y a le précepte qui déclare qu'il faut aimer son prochain. Et puis il y a la synthèse des deux qui est ici faite par ce scribe. Et là, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le cheminement, puisqu'il s'agit chaque fois d'amour. L'amour pour Dieu, avec tous les éléments qui en décrivent l'étendue, la force, l'intensité. Et puis cette référence à quelque chose de beaucoup plus immédiat, beaucoup plus concret, beaucoup plus repérable comme attitude de la vie, c'est l'amour du prochain, de celui qui est là, à côté de moi. Et à cette réponse bien faite de la part de ce scribe, Jésus approuve. Tu as bien répondu. Et il lui déclare simplement, tu fais ça et tu auras la vie éternelle. Tu as la réponse à ta question. Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie éternelle. L'importance du faire, nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais Jésus entame dans cette parabole et va développer dans les évangiles sa compréhension et son enseignement sur cette vérité fondamentale, sur ce précepte essentiel d'aimer son prochain, qui va devenir le commandement qui résume toute la loi. Jésus va définitivement transformer la notion même de prochain. D'abord, Jésus consacre le commandement de l'amour dans les deux commandements condensés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous avons donc, à plusieurs reprises dans les évangiles, cette liaison intime entre les deux aspects du commandement de l'amour. C'est ce que nous trouvons, par exemple, lorsque dans les évangiles, il nous est rapporté la question qui est posée par, cette fois non pas un scribe, mais le jeune homme riche, mais nous avons le même élément. Et c'est aussi la même question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, il y a une sorte de récitation, une description, plus d'énumération de la loi, des préceptes, différents préceptes de la loi. Les deux commandements d'amour sont liés. Et je voudrais juste ici ajouter cette petite note que dans l'évangile selon Marc, nous avons, à propos de la question du jeune homme riche, alors ce n'est pas tout à fait la même pour ce qui nous est rapporté dans l'évangéliste Marc, il est question quel est le plus grand commandement de la loi. Le plus grand commandement de la loi. Et la réponse, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est la même réponse que celle que nous avons ici. Et là, dans le cas qui nous est rapporté dans l'évangile selon Marc, ce qui est intéressant, c'est que celui qui pose la question à Jésus, et qui de fait est aussi un spécialiste de la loi, lui répond. Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu as bien souligné ce qui est important. Tu as dit ce qui est vrai. Bon maître, tu as dit avec vérité que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les sacrifices et tous les holocaustes. Et Jésus, en entendant cet homme lui répondre de cette façon, lui déclare « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». C'est la seule mention dans les évangiles où Jésus a une appréciation positive sur un de ceux qui lui posent la question. Mais parce que c'est le seul qui n'a pas posé la question pour piéger Jésus, mais qui lui a posé la question avec un cœur honnête. Et ça valait la peine de relever que dans l'évangile de Marc, nous avons cette mention. Tu as répondu avec intelligence, dit Jésus à cet homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous avons bien sûr des développements de ce que nous sommes en train de dire. À la suite de Jésus, nous avons d'autres éléments dans ce que dit l'apôtre Paul, par exemple, qui déclare dans la lettre aux Galates, Galates chapitre 5, verset 14, nous avons cette parole. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, nous sommes étonnés qu'il n'y ait même plus la mention de l'amour pour Dieu. Toute la loi, déclare l'apôtre Paul, la loi tout entière trouve son accomplissement dans cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Dans d'autres endroits, il est question d'être une loi résumée, la somme de tout ce qui est prescrit. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 13. Et l'apôtre Jacques qualifie cette loi de la loi royale. Nous avons donc, à plusieurs endroits, cette seule mention de l'amour du prochain comme étant le commandement qui accomplit tous les commandements, qui est la somme de toutes les lois, qui est la loi royale. Le commandement de l'amour du prochain. Quelle importance énorme nous trouvons qui est tout entière concentrée sur ce seul commandement. La question peut venir en disant, mais enfin, il y a quand même l'amour de Dieu, c'est d'abord le premier, c'est le grand. Est-ce que on a oublié cet élément, ou alors est-ce que dans l'encadrement de cette parabole que nous sommes en train de méditer, par le faire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Fais cela et tu auras la vie éternelle. Est-ce qu'il y aurait un glissement vers uniquement le faire qui compterait ? Non, bien sûr. Ce n'est pas un retour à faire son salut par l'accomplissement même de la loi de l'amour. Mais c'est parce que le concret de cet amour du prochain, qui ne peut se manifester que de façon pratique, visible, vérifiable, c'est par cette réalité-là que se prouve tout le reste, l'amour de Dieu et la foi. Ce ne sont évidemment pas les œuvres faites pour le salut, mais ce sont les œuvres de la foi. C'est le faire qui prouve le croire. Ce sont les œuvres de la foi qui prouvent tout le reste. Et d'abord, bien sûr, l'amour de Dieu. Fais cela et tu auras la vie. Pour essayer de s'en sortir, le scribe de notre histoire dit à Jésus, qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Comment savoir qui aimer ? Comme ça, je pourrais voir et choisir. Et c'est là où Jésus va beaucoup plus loin que une description de qui aimer. Et nous voyons que dans le récit tel que Jésus l'a présenté, il y a cet homme blessé qui appelle la pitié, qui a besoin de soins, qui a besoin du secours. Il est tombé sur des brigands. C'est une réalité locale. Et à ce moment-là, peut-être ce chemin qui descend beaucoup entre Jérusalem et Jéricho, traverse une région désertique qui était infestée de brigands. Et c'est un chemin rocailleux, et dans une pente assez raide, puisque Jérusalem se trouve à 27 km de Jéricho. Jérusalem se trouve à 750 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et Jéricho se trouve au bord de la mer Morte à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il y a donc 1000 mètres de dénivelé sur 27 km entre Jérusalem et Jéricho. L'homme a été massacré par les brigands et deux autres passent sur le chemin. Un pharisien et un lévite. Et chacun voit, le texte précise bien qu'il voit le blessé, s'en écarte et passe son chemin. Comment c'est possible ? Des gens qui connaissent la loi, qui sont des responsables de la communauté, de la foi, du peuple de Dieu, et qui s'écartent sans secourir un blessé de la vie. Et puis vient le Samaritain, un homme qui n'avait pas les titres de connaissance de la loi qu'avaient les deux autres, mais qui avait un cœur à la sensibilité simplement normale, et qui lui n'est pas passé loin du blessé, mais au contraire s'est occupé du blessé de la vie. Et pourtant, ce Samaritain était un homme méprisé par les Juifs. Nous revenons à cette idée de ces gens qui étaient coincés dans leur système et dans leur appartenance de clan. Et Jésus, qui raconte cette histoire, demande, et il faut bien considérer la forme et le fond de ce qu'il dit à cet homme, il lui dit, il a donné tous les détails de cet homme, hein, il a soigné, de ce Samaritain qui a soigné le blessé. Il l'a soigné sur le coup et il l'a amené dans une auberge. Il a continué à le soigner autant qu'il a pu et il a même payé pour que l'aubergiste s'occupe encore en son absence. Donc il a vraiment été au-delà même du basique pour secourir ce blessé. Et il a payé pour lui. Et Jésus demande cette fois à ce scribe, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands. Jésus avait déjà demandé à cet homme « Qu'est-ce que tu comprends de la loi ?» Et maintenant, il lui dit « Qu'est-ce que tu comprends de l'attitude de ces trois qui sont passés à côté du blessé ?» À ton avis, lequel des trois sait montrer le prochain de l'homme qui a été victime des brigands ? Et ici, Jésus, dans l'inversion du propos, la question c'était « Qui est mon prochain ?» Jésus dit « Qui sait montrer être le prochain du blessé ? Qui s'est révélé être le prochain du blessé ?» Alors, ça lui aurait écorché la bouche de dire « C'était le Samaritain ». Alors il a dit « C'est celui qui a eu pitié de lui ». Vous ne pouvez pas faire moins. C'est celui qui a eu pitié de lui. Oui, c'est bien cela. Toi, va et fais la même chose. Dans cette parabole du bon samaritain, Jésus va au bout d'une démarche complètement différente de celle de tous les légalistes et de tous ceux qui prétendaient faire leur salut simplement en accomplissant la loi. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas à toi de décider qui est ton prochain, de faire ton choix et de dire celui-là je peux l'aider, celle-là je peux l'aider, celle-là non. L'être humain en difficulté que je rencontre, fût-il mon ennemi, m'invite à devenir mon prochain, son prochain. L'amour garde ainsi un caractère extrêmement concret. Il sera appelé à se manifester à l'égard de toute personne que Dieu mettra sur mon chemin. Qui s'est montré le prochain du blessé. Et donc Jésus amène cette logique jusqu'au bout dans un autre texte bien connu où il dira « Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire ? Aimez même vos ennemis. » Ça, c'est l'absolu de la conséquence de l'amour que Dieu nous a témoigné. Nous avons été aimés d'un amour total et absolu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons là une parole essentielle, une attitude fondamentale, une inversion salutaire des priorités. Il n'y a plus devant celui qui est proche de moi que je rencontre. Il n'y a plus à chercher des excuses trop faciles, à poser des questions entortillées, à évoquer des considérations fuyantes. Il y a une réalité. Je suis appelé à être le prochain de celui que je rencontre. Je suis appelé à être le prochain de celui que je rencontre. Une réalité qui a appelé dans notre parabole cet homme à laisser parler son cœur, et c'est la même leçon que nous recevons pour que nous aussi nous nous souvenions de quel amour nous avons été aimés. Nous allons y penser tout particulièrement en partageant la scène dans un instant, et que c'est de cet amour-là dont nous avons été aimés que nous devons aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pensons maintenant, chers amis, à celui qui a été touché par notre misère et qui est venu pour nous sauver, Jésus, qui s'est approché de nous. pour panser nos blessures et pour nous donner la vie et la vie éternelle. C'est Jésus, notre prochain. Nous allons chanter ensemble pour nous préparer à partager la Sainte Cène, le cantique rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Levons-nous pour chanter ce cantique.